Nous sommes au téléphone avec Didier Lator. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Donc merci d'avoir répondu à notre appel et puis merci d'avance pour les explications que vous allez nous apporter sur ce site de Malvézy à côté de Narbonne, assez peu connu, donc une usine Areva. Vous organisez avec le réseau Sortir du nucléaire dont vous faites partie et avec votre groupe local, c'est-à-dire celui de l'Hérault, une journée d'information justement et de débat justement sur cette usine et puis plus largement sur le nucléaire. Ça sera samedi prochain au Palais du Travail à Narbonne, on y reviendra. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qu'est-ce qui se passe à Narbonne? Quand on parle nucléaire, on a surtout en tête les centrales, les 58 fameux réacteurs. Et pourtant, l'usine d'Areva de Malvézy est très importante aussi.
En fait, l'usine de Malvézy, oui, c'est une usine très importante puisqu'il y en a 6 au monde et c'est la plus importante des 6. Ça représente 100% de l'uranium français qui passe par cette usine et 26% de l'uranium mondial. Donc c'est pas une petite usine locale, malgré qu'elle soit dans la périphérie à 3 km de Narbonne, planquée dans un endroit qui est magnifique. Voilà, c'est une usine dans laquelle on transforme le minerai qui provient du Niger, du Canada ou du Kazakhstan par divers process qui utilisent des produits chimiques très très dangereux, de acide fluorhydrique, acide nitrique, de l'ammoniac. Et tous ces liquides, en fait, une fois qu'ils ont transformé c'est la première transformation en France de l'uranium, de ce qu'on appelle le yellow cake, mais c'est la deuxième en fait, puisqu'il y a une première transformation sur place. Et donc ça génère énormément de produits liquides chimiques très toxiques. Donc ces produits décantent dans des bassins à ciel ouvert. Et c'est super parce que Narbonne, c'est une des régions les plus ventées de France. Et il y a 300 jours de soleil par an. Donc c'est l'action du soleil et du vent qui va disperser ces effluves chargés de chimie et de radioactivité. Donc c'est un procédé qui produit vraiment énormément de rejets, tant par les airs que par le sol. Et puis il y a eu de nombreux incidents et accidents, même au fil du temps, déversement de la radioactivité dans l'environnement, rupture de digues, des inondations. Il y a des salariés qui ont été contaminés, il y en a même qui sont morts. Enfin, c'est une usine nucléaire, donc c'est une usine dangereuse, très clairement.
Alors,
qui génère aussi beaucoup de transport, mais peut-être on en parlera dans un second temps.
Voilà, ce qu'on pourrait souligner déjà par rapport à ce que vous venez de nous dire, c'est que par rapport au fameux mythe de l'indépendance énergétique française grâce au nucléaire, cette usine est là pour nous rappeler que le nucléaire français dépend quand même d'importations de cet uranium qui vient de différents pays.
Et voilà, exactement. Et donc, puisque 100% de l'uranium qui brûle dans nos centrales, 100% vient de l'étranger. Il n'y a plus du tout d'uranium produit en France. Donc l'indépendance énergétique est un leurre. Et il faut relever que l'extraction de l'uranium qui se fait dans des mines à ciel ouvert est particulièrement toxique et dangereuse pour les populations d'Afrique où le droit du travail est très faible et où une usine comme Areva, quand elle quitte un pays, elle laisse un merdier incroyable avec des déchets, des cours d'eau pollués et une radioactivité importante.
Alors cet uranium, donc, il part du Niger par exemple. Quel chemin il prend pour arriver jusqu'à Malvézy?
Alors il part... S'il part du Niger ou du Kazakhstan, par exemple, c'est pas tout à fait le même cheminement, mais en tout cas, il part en bateau et il arrive ou bien dans le port de Fos-sur-Mer, ou bien dans le port du Havre, ou bien dans le port d'Hambourg. Il y a beaucoup de ce qui vient du Kazakhstan, par exemple, arrive par le port d'Hambourg. On fait beaucoup d'observations, de vigie actuellement, pour essayer de voir un peu l'ampleur de ces transports, parce qu'on a très peu d'informations, c'est vraiment des informations qui proviennent par les militants. Et ensuite, par exemple, ce qui arrive à Hambourg traverse la France par train et arrive, est acheminé à Narbonne.
D'accord. J'ai un article sous les yeux justement qui date du 14 février dernier, la Dépêche du Midi, et qui parle d'un convoi qui devait arriver en gare de Narbonne, donc le matin à 7h. Vous étiez justement présent pour surveiller cette arrivée dans gare
de
Narbonne.
Oui, alors en fait, donc ça fait quand même des mois que, avec nos camarades allemands, qu'on fait des observations sur les trains pour savoir la quantité, la régularité. Donc là, c'était un train qui comportait 14 conteneurs donc de Yellow Cake, donc je rappelle, qui n'est pas l'uranium brut. Enfin, on dit que c'est de l'uranium brut, mais en fait, il n'est pas brut. Il est déjà concentré à 80% et il a produit, il a déjà subi un premier traitement chimique sur place. Donc, ces trains sont acheminés. On connaît à peu près, on connaît le trajet, on sait qu'il y a une régularité, un, deux ou trois trains par mois en gros, et on voulait informer la population, voir le train, mesurer la radioactivité, prendre des photos. On en a déjà un certain nombre, mais on voulait surtout informer la population du Narbonnais. Et donc on s'est présenté à 7 heures du matin. On sait que le train, en principe, quand il part le lundi de Hambourg, il arrive le vendredi aux alentours de 8 heures du matin. C'est assez régulier. Et là, le train n'est pas passé. Et on pense qu'il a été, enfin on en est sûr même, il a été retenu. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le nucléaire est une industrie cachée, aussi infâme qu'on ne peut pas voir passer un train, et qu'on ne peut pas en mesurer la radioactivité.
Alors, je vous parle de cet article de La Dépêche parce qu'il y a quand même deux, trois choses qui m'ont amusée, notamment dans les propos d'Émilie Donte, qui est donc la porte-parole du site Areva à Narbonne, puisqu'elle expliquait qu'ils avaient choisi le chemin de fer puisque c'était plus sûr et plus écologique. Et ensuite, je la cite, hein, « Tout ce qui rentre et sort du site Areva de Malvézy à Narbonne est faiblement radioactif. » Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce genre d'affirmation ?
Disons que là où on ne peut lui donner que raison, c'est que ça n'a rien à voir avec les déchets nucléaires, qui sont, eux, particulièrement radioactifs, qui circulent aussi en train, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est très écologique, mais des déchets nucléaires, ça n'est pas du tout écologique, et pourtant, ça circule en train. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de faible dose de radioactivité. On a arrêté, il y a à peu près un peu plus d'un an, un peu moins d'un an et demi, on a arrêté un camion du F4, qui est donc le premier stade de transformation en France, qui sortait de Narbonne et qui allait sur Pierrelatte pour subir une autre transformation. On l'a arrêté, on a mesuré la radioactivité, qui, au contact du camion, est 120 fois la dose de radioactivité dite normale, d'accord, c'est-à-dire ambiante, quoi. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est pas anodin. À 2 mètres, c'est encore 45 fois. Donc, il n'y a pas de faible dose. Tous les spécialistes, tous les scientifiques reconnaissent qu'il n'y a pas de faible dose. Une dose de radioactivité peut être dangereuse si elle est mal reçue, si et ça s'accumule, ça ne s'en va pas au fil du temps. Donc, il y a une partie qui est juste, c'est que c'est moins dangereux que les déchets, mais il y a une partie qui est fausse, c'est que ça reste tout à fait dangereux.
Alors, il y a une petite vidéo que j'ai eu l'occasion de voir sur Internet qui a été mise en ligne par la CRIRAD. Donc, la CRIRAD, c'est ce centre de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, où je crois que c'est Bruno Chariron, oui, c'est ça, responsable de laboratoire donc de la CRIRAD, qui s'est promené à l'intérieur d'une voiture le long de cette usine avec un appareil pour justement quantifier les rayonnements. Et c'est assez impressionnant. J'imagine que vous avez vu ça aussi. Alors, c'est assez difficile, quand on s'y connaît pas trop au niveau scientifique sur qu'est-ce que c'est ces rayonnements, etc. Mais c'est un peu comme vous nous disiez, c'est multiplié par 10, 20, 30 la quantité normale de radioactivité.
Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr que c'est assez impressionnant quand on se promène le long de l'usine. La radioactivité est moins forte qu'à une certaine période parce qu'il y a maintenant des bidons de sable ou des conteneurs de sable qui écartent un peu la radioactivité de la route, mais ça reste très fort. Et les salariés qui sont à l'intérieur subissent cette radioactivité. Il faut savoir qu'à la Comurex, il y a aussi quand même quelques milliers de tonnes de déchets. Et l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a fait la demande, à la Comurex qu'il y ait un plan de gestion de ces déchets. La Comurex n'a jamais répondu à cette demande depuis des années. C'est une demande qui date de plusieurs années maintenant et l'ASN attend toujours. Et comme l'ASN qui prétend être le gendarme du nucléaire peut faire des demandes et les fait réellement, mais ne peut pas les faire appliquer, l'exploitant fait un peu ce qu'il veut.
Il n'y a pas de sanctions qui sont prévues.
On peut rappeler aussi d'ailleurs que la Comurex, qui est classée Céveso, seuil haut, à cause des matières utilisées, acide fluorhydrique, ammoniaque, a fait une demande de la part de l'ASN d'un classement en installation nucléaire de base sur deux bassins.
alors que la Comurex savait très bien qu'elle aurait déjà dû, qu'elle aurait dû faire elle-même la démarche de faire classer ces bassins, puisqu'on a retrouvé dans ces bassins du plutonium, qui est la matière la plus dangereuse jamais créée par l'homme, et qui est issue de la combustion. Ça veut dire, s'il y a du plutonium à la Comurex, ça veut dire qu'à une certaine époque, et on le sait maintenant, il y a des déchets nucléaires qui ont été recyclés, et donc Areva-NC, hein, l'usine de Malvézy, n'est pas qu'une usine de transformation. C'est aussi une usine sur laquelle il y a des déchets, les déchets les plus toxiques de l'industrie nucléaire. Le plutonium et puis ses dérivés avec des noms plus ou moins poétiques comme ça, américium.
Et alors, il me semble que c'est en 2004 qu'il y a eu notamment un problème à cause des pluies dans la région de Narbonne. J'ai lu que ça avait causé la rupture d'une digue d'un bassin de décantation et que du coup de nombreux produits radioactifs avec ces fameuses traces de plutonium ont contaminé les environs. Est-ce que il y a des études qui ont été faites quand même pour les environs proches? C'est quoi l'environnement proche de cette usine? C'est à tout près de Narbonne, vous nous l'avez dit, mais c'est dans une zone plutôt industrielle ou est-ce qu'il y a des champs à côté? Comment c'est?
Non, c'est une zone. Il y a les eaux du canal de Torrent, il y a la Robine. C'est une zone qui est particulièrement naturelle, même s'il y a des usines à côté. Mais des incidents et des accidents, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu en 2001. Il y a des wagons qui ont déraillé. Il y a notamment des wagons d'acide fluorhydrique. Il a fallu évacuer une partie de la population. Il y a l'accident de 2004, la rupture de la digue dont vous parlez. En janvier 2006, il y a eu des inondations et des pluies qui se sont déversées dans les eaux, des pluies chargées en nitrate. En 2009, il y a eu des versements de fluor, d'ammonium qui ont contaminé les eaux du canal de Torrent. Et d'ailleurs, à cette occasion, la Comurex, puisque ça s'appelait Comurex encore à l'époque, a été condamnée à 60 000 euros d'amende pour déversement de substances nuisibles. Donc des incidents et accidents, plus ou moins graves, il y en a quand même assez régulièrement.
60 000 euros, c'est pas très cher payé quand même pour une pollution de cette sorte quand même.
Ah bah oui, c'est vrai, on peut dire ça, ouais.
Quand même, ouais. Donc, cette usine, comment... Est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont exposés à l'intérieur, donc à tous ces rayonnements?
Je crois qu'il y a environ 300 travailleurs à la Comurex.
300 travailleurs.
Donc, il y en a, selon leur emploi, ils sont plus ou moins exposés. Il y a un travailleur avec lequel on est en contact fréquemment, qui s'appelle Michel Leclerc, qui est en procès contre l'usine, qui a attrapé une leucémie assez typique de ce qu'on peut attraper en contact avec l'uranium, qui a été reconnue comme maladie professionnelle, et qui nous a expliqué que à l'époque, il n'y avait absolument aucune sécurité pour les travailleurs. Maintenant, les choses ont un peu changé. Il y a eu des efforts de fait de ce côté-là, mais il n'empêche que ça reste une industrie de toute façon dangereuse.
Dangereuse, et puis ce qui se passe aussi à l'échelle de la France en général dans les centrales, c'est l'emploi de plus en plus d'intérimaires et ça aussi, ça fait courir plus de risques à ces travailleurs.
Oui, beaucoup d'intérimaires, de moins en moins formés et des arrêts de tranches pour nettoyer en fait les zones importantes, les zones à nettoyer de la centrale, des arrêts de tranches qui sont de plus en plus courts. Donc effectivement, d'ailleurs, beaucoup de syndicats avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, anti-nucléaire, sur l'arrêt du nucléaire, mais qui eux-mêmes sont malgré tout très très inquiets par la manière dont est gérée cette industrie en France. Hein.
Alors vous, en tant que réseau, donc sortir du nucléaire, est-ce que vous avez accès aux informations dont vous avez besoin pour pouvoir prendre en compte les problèmes posés par cette usine? Comment ça se passe?
Non, on a très peu d'informations. Les informations, il faut aller les chercher. Les informations, c'est celles, par exemple, qu'a pu obtenir la CRIRAD quand elle a mené une enquête. Sur place, on a des camarades, enfin des gens avec qui on est devenus amis maintenant, qui sont allés prélever des bouts parce qu'ils étaient dans une, ils avaient une maison qui était attenante à l'usine et il y avait eu des déversements, les, ils étaient particulièrement inquiets. Ils sont allés prélever des bouts qui sont fait analyser par la CRIRAD et il y a eu tout un rapport de la CRIRAD. Voilà, donc en fait, nos informations, elles viennent d'actions citoyennes. Comme quand on a arrêté un camion il y a 2 ans, on a pu mesurer la radioactivité. On ne nous donne pas les chiffres.
Il faut toujours aller chercher les informations.
Les premiers stades de transformation de l'uranium ne sont pas considérés comme de la matière radioactive, comme du combustible. Donc l'ASN n'est même pas tenue à suivre les transports. Elle est informée en cas de problème, mais s'il n'y a pas de problème, elle n'est même pas informée. Donc les informations, oui, il faut aller les chercher avec les dents, quoi, on pourrait dire.
D'où tout l'intérêt de ces mobilisations citoyennes, comme vous dites. On va reparler donc des différentes mobilisations, et notamment de celle de samedi qui arrive, samedi 21, donc à Narbonne. Mais avant, on va faire une petite pause musicale avec une chanson de Gérard Gély qui s'appelle « L'atome ». On se retrouve tout de suite après.
À l'époque de Monsieur Perrichon, les mineurs pour chauffer nos maisons avalaient des tonnes de poussière. Maintenant on a le nucléaire. Radium, plutonium, uranium, rien n'est jamais trop beau pour les cons. Conteneurs et catenaires sont les deux mamelles du nucléaire. Tout est net chez Madame Durand, tout est propre, tout est chaud, tout est blanc. Peu d'espoir qu'un seul bouton s'y perde, c'est bien dommage qu'on s'y emmerde. Radium, plutonium, uranium, rien n'est jamais trop bon pour les cons. Conteneurs et catenaires sont les deux mamelles du nucléaire. Quand l'atome batifole gaiement dans les bois, dans les prés, dans les champs, renardeaux, désertez vos tanières, rossignolez, fuyez vos clairières. Radium, plutonium, uranium, rien n'est jamais trop bon pour les cons. Conteneurs et catenaires sont les deux mamelles du nucléaire. Rendez-moi ma chaumière enfumée, mes sabots et ma cheminée, mon couteau, ma vieille pipe en terre, et mettez-vous l'atome derrière. Radium, plutonium, uranium, rien n'est jamais trop bon pour les cons. Conteneurs et catenaires étaient les deux mamelles du nucléaire.
Voilà, c'était donc l'atome de Gérard Gély et nous sommes toujours en direct sur Radio Bartas avec Didier Latorre au téléphone. Toujours là, Didier ?
Toujours là.
Bon. Donc, démobilisation contre cette usine, démobilisation déjà pour avoir de l'information. Donc, c'est passé, vous nous en avez touché un mot, mais peut-être on peut en dire un peu plus, notamment par des blocages de camions. Il y a eu un procès intenté à une des militantes l'année dernière et finalement ça a été une sorte de demi-victoire, mais tout de même une victoire, c'est ça ?
Oui, bah effectivement, en fait on a arrêté un camion pour mesurer la radioactivité, pour prendre des photos, pour le faire connaître à la population, faire des vidéos pour que les gens voient à quoi ils ressemblent. Il faut savoir que ces camions qui étaient, je dis qui étaient parce que ces transports sont en train de changer, en fait il y avait... ce premier stade de transformation de l'uranium, l'UF4 partait de l'usine en camion. Mm-hmm. Il y en avait 3 à 5 par jour à peu près. Et maintenant, ils sont en train de basculer sur rail.
Hein,
l'usine, d'ailleurs, reconnaissant que c'était moins dangereux. Donc, il y a bien un problème quand même. Hein.
Ouais.
Donc, on a voulu... informer là-dessus, aussi attirer l'attention des maires qui ne sont pas au courant que des transports comme ça passent par chez eux. Les camions passaient par l'autoroute, s'arrêtaient sur des aires d'autoroute, les gens n'étaient pas informés, des gamins pouvaient manger un sandwich à côté du camion. Donc voilà, on trouvait que c'était pas vraiment génial et on a voulu intervenir. Et puis là, donc on l'a fait en toute sécurité, hein. On avait bien prévu le coup, on avait ralenti le camion, on l'avait arrêté à un endroit sans danger où les voitures pouvaient continuer à circuler, mais la camarade qui avait bloqué le camion avec sa camionnette a été arrêtée, un procès s'en est suivi. Le procès, en fait, on a souhaité, on l'a fait repousser parce qu'on a fait en sorte qu'il y ait 22 personnes qui soient des comparants volontaires. Donc, parce que c'était une action collective, c'était pas une action individuelle, donc on voulait marquer le coup de cette manière-là. Donc le procès a été repoussé, ça nous a permis de communiquer pas mal, il y a eu des milliers de signatures pour nous soutenir, pour soutenir les bloqueurs d'uranium. Et puis on est allé au procès, trois personnes ont témoigné sur l'action, sur la dangerosité du nucléaire, donc ça a été une véritable tribune. Et puis contre toute attente, le procureur de la République a dit que lui en fait il n'aurait pas poursuivi et que l'action de militants qui était à la limite de la légalité faisait parfois avancer la loi. Et donc il a reconnu, on pourrait dire en quelque sorte, le rôle des porteurs d'alerte. Et donc il a demandé non pas une relaxe, puisqu'il y avait eu entrave à la circulation, mais une remise de peine. Donc c'est vrai que c'est quand même une relative victoire, oui.
Comment ça s'organise localement? Donc est-ce qu'il y a des comités aussi de voisins, de riverains de cette usine qui essaient de lutter pour avoir plus d'informations, puis qui doivent être inquiets aussi des conséquences sur leur santé en étant tout proche?
Il y a des comités de riverains, il y a un comité de riverains, oui, avec qui on a eu quelques contacts, mais on travaille assez peu avec eux. Il y a aussi une association qui s'appelle l'association Éclat, dont on connaît les responsables, avec qui qu'on a rencontré, avec qui on discute, on se retrouve parfois sur des manifestations. Et puis il y a un groupe, vous disiez tout à l'heure que la journée du 21 était organisée par Sortir du Nucléaire et le groupe Sortir du Nucléaire Héros 34. En fait, il est aussi organisé par SDN 11, SDN Aude.
Oui, d'accord.
Donc il y a des relations de proximité. Oui, au niveau région, on travaille beaucoup entre Montpellier et Narbonne, et on a donc du coup créé des liens qui sont maintenant des liens d'amitié d'ailleurs, et entre les personnes, et qui nous permettent de nous tenir informés, puis d'agir, de faire des actions de vigie comme vendredi, et d'être quand même pas loin d'une soixantaine de personnes à 7h du matin venant de Narbonne ou des environs ou de Montpellier. On crée un réseau, oui, réellement.
Alors il y a un chiffre que je voudrais rappeler, que vous rappelez aussi vous d'ailleurs dans le tract qui appelle à la mobilisation, un chiffre tout à fait sérieux qui vient de l'INSERM mais qui est assez récent et dont on a assez peu parlé, il me semble, c'est qu'il y a deux fois plus de leucémie infantile dans un rayon de 5 km autour des centrales nucléaires françaises chez les enfants de moins de 5 ans.
Eh oui.
Ça, c'est quand même assez important à dire et à répéter. Alors, venons-en donc à cette journée du 21, une journée d'information et de débat avec une conférence dès 14h. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Au Palais du Travail.
C'est Bruno Charéran, que vous avez cité tout à l'heure, qui est ingénieur en physique nucléaire à la CRIRAD, qui viendra faire cette conférence, qu'il a déjà eu l'occasion de faire à Narbonne, juste la veille du procès d'ailleurs. On était allé au Café de la Poste où ce sont des amis. Donc c'est le Café de la Poste, une petite salle où pouvaient rentrer une centaine de personnes. Il y a eu une vingtaine ou une trentaine de personnes dehors qui n'ont pas pu rentrer. Et des gens nous ont fait la remarque, mais enfin, c'est pas normal. Tous les Narbonnais qui veulent venir devraient pouvoir rentrer. On a dit, ok, mais... on a organisé ça dans les réseaux militants, on a fait ce qu'on a pu. Comme le maire était présent, on l'a interpellé, on lui a demandé si on pouvait avoir une salle plus grande. Il nous a dit ok, bon il se trouve qu'il n'a pas été élu, mais que le nouveau maire a accédé à notre demande. Donc on sera au Palais du Travail. C'est une grande salle, hein. Il peut rentrer plusieurs centaines de personnes. On n'imagine pas qu'il y aura plusieurs centaines, mais peut-être 200, 300 personnes, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, tous les Narbonnais qui veulent venir et tous les habitants du Narbonnais sont bien sûr invités. C'est absolument gratuit. Bruno Charéran fera sa conférence sur l'impact de l'usine de Malvézy à Narbonne, l'usine Areva. Et donc c'est une conférence avec un diaporama qui est avec des choses très précises. Il connaît bien l'usine, il a pris des mesures. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait quand même intéresser les gens. On a fait en sorte, il n'y a pas d'exclusif, tout le monde est invité, mais il n'y aura pas de tribune, mais tout le monde pourra intervenir. Dans la salle, il y aura un micro qui circulera, y compris la direction de l'usine, si elle veut intervenir. Mais surtout, et on espère, peut-être des travailleurs de l'usine.
Mm-hmm.
Et on a invité, bien sûr, les syndicats, notamment le syndicat CGT, qui est le syndicat majoritaire, mais aussi les autres. Donc voilà, on espère, on va les rencontrer. D'ailleurs, on va rencontrer des syndicalistes. Et voilà, on espère qu'ils seront présents. Donc conférence, débat, et puis ensuite des ateliers pour brasser un petit peu l'ensemble de la problématique. Donc un atelier sur nucléaire, travailleurs, emploi. Un atelier sur la chaîne du combustible, justement, et les transports, dont on parlait tout à l'heure, et puis un atelier sur la société nucléaire, est-ce que ça implique au niveau du coût humain, sanitaire, démocratique aussi, puisqu'on parlait de l'uranium qui vient de pays, et en fait, c'est une économie colonialiste, je crois qu'on peut le dire sans exagération.
Oui, c'est sûr, sans exagération. La société nucléaire, comme c'est dit, ça dit bien tout ce que ça dit. Effectivement, aussi au niveau de la démocratie, les quelques problèmes, et puis par rapport à, juste dans ce que vous venez de nous raconter, les problèmes de transparence aussi de cette industrie-là.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Peut-être, j'ai simplement dit tout à l'heure que la CRIRAD, ça voulait dire Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot, puisque c'est quand même une organisation très importante.
Bah, je peux vous en dire un mot. Bon, moi-même, je suis adhérent à la CRIRAD, mais bon, comme on peut pas tout faire, je n'y passe pas énormément de temps. Il faudrait plutôt interroger quelqu'un de la CRIRAD. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est effectivement une association indépendante qui s'est créée suite à l'accident de Tchernobyl, parce qu'un certain nombre de citoyens ont été choqués qu'il n'y ait absolument aucun chiffre qui sortent, qu'aucune mesure ne soit prise en France, alors que des mesures étaient prises un peu partout, en Italie, en Allemagne, et qu'en France, on continuait à faire comme si de rien n'était, et que ça a contaminé notamment les populations corses ou dans les Bouches-du-Rhône, avec des cancers, des leucémies très très importantes à l'heure actuelle, hein, en Corse. Donc des gens ont été choqués, ont créé cette association et ont embauché des physiciens du nucléaire qui ont travaillé, ont créé un laboratoire. Et la CRIRAD maintenant, effectivement, fait un vrai, vrai travail de terrain sur les anciennes mines, sur les installations nucléaires. Il y a des balises qui relèvent la radioactivité dans la vallée du Rhône. La CRIRAD va donner un coup de main. Par exemple, quand il y a un accident à Fukushima, ils vont former des gens qui créent des associations qui peuvent faire des relevés sur place pour éventuellement proposer aux populations de quitter les lieux si vraiment c'est pas possible, hein, avec tous les drames bien sûr que ça comporte. Mm-hmm. Mais voilà, il faut peut-être mieux parfois s'éloigner parce que c'est le terrible drame de cette industrie qui fait que des gens peuvent parfois quitter leur territoire pour toujours. Ce qu'on accepte difficilement en temps de guerre, l'exil des territoires anéantis, on l'accepte en période de paix. Ça me semble assez scandaleux. Voilà, donc en fait la CRIRAD mène, pour en revenir à votre question, mène tout un travail d'information et de formation aussi auprès des populations.
Et ils ont un site plein de ressources, donc c'est CRIRAD, CRIRAD.org, où vous pourrez trouver plein d'informations. Et puis d'ailleurs, sortir du nucléaire aussi un site, c'est sortirdunucléairetoutattaché.org. Et après, je crois que pour les collectifs locaux, il suffit de rajouter le numéro du département.
Non, pas forcément, hein, en fait, non. Mais la plupart du temps, on peut taper dans un moteur de recherche SDN34 ou SDN Aude, voilà, SDN34, on a un site internet, hein, donc si on tape SDN34 ou sortir du nucléaire 34 dans un moteur de recherche, on arrivera sur notre site. Hein. Ce qu'on peut dire aussi à propos de la CRIRAD, si on va sur leur site, on peut taper CRIRAD Malvésie, hein, y a deux orthographes, hein, ZY ou SI ou CRIRAD Narbonne, on trouvera tout un dossier très très étayé sur l'usine et notamment aussi les vidéos dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, et puis le mieux, bah, c'est de venir samedi au Palais du Travail, quoi, à Narbonne.
Mais c'est vrai que ces petites vidéos sont quand même éclairantes. Donc voilà, on vous invite à aller faire un tour sur ce site parce que c'est vraiment très intéressant. Mais merci beaucoup Didier Lothor d'avoir été avec nous.
Eh bien, je vous remercie et puis vraiment, j'invite tout le monde à venir donc à partir de 14h, 14h, 22h au Palais du Travail à Narbonne. Donc voilà pour la conférence, pour les ateliers. Et puis il y a une petite soirée conviviale à partir de 20h, un repas partagé, buvette pour que les gens se rencontrent et
discute un peu ensemble, quoi, voilà, samedi prochain.
Samedi 21 février 2015 au Palais du Travail de Narbonne. Merci
voilà,
beaucoup,
si
Didier.
Je peux juste ajouter une dernière petite chose. La veille, le vendredi à 20h, au cinéma Utopia de Montpellier, il y aura la projection du film sur Fukushima, Welcome to Fukushima, le film de Alain Dehaeleux, en présence aussi de Bruno Charéron. On profite de sa venue pour le faire intervenir ce jour-là. Donc le cinéma Utopia... à Montpellier, à 20h.
Ça sera vendredi 20 février, alors.
Voilà, juste la veille.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.